faire un dog trip en terre viking avec son chien. C'est ce que propose Charles Arisa, guide polaire, lors de ses escapades dog-friendly dans le sud de la Suède. Un petit groupe, peu de chiens et un milieu naturel accueillant entre la mer du Nord et une immense forêt boréale. Tout ce qu'il faut pour une semaine de voyage typique au cœur de la Suède avec son chien. Et le must, c'est qu'il s'occupe de tout. Organisation des randonnées, du logement, des repas des humains, etc. Vous n'avez qu'à profiter. Retrouvez toutes les infos sur son site, charlarisa.com. Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. Deux lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, Laura nous partage sa traversée de l'Europe qu'elle a fait avec Eva et leurs deux chiennes, Fruita et Yuka. Un voyage de 4 mois durant lesquels elles ont pédalé 4655 km pour traverser 8 pays, depuis la Norvège jusqu'à l'Espagne grâce à l'Eurovélo 3. Un épisode que je t'invite vivement à découvrir, notamment si tu prévois un long voyage à vélo. J'espère qu'il te plaira. Hello Laura, bienvenue sur le podcast Tweet, comment vas-tu?
Bonjour, merci, ça va, super, et toi?
Ça va super, merci. Trop contente de t'avoir aujourd'hui, donc on va parler d'une aventure que tu as faite pas toute seule, enfin, t'es toute seule à enregistrer, mais c'est une aventure que vous faites à deux, Eva et toi. Donc avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter et présenter ta petite famille, puisque tu voyages pas non plus avec un seul chien?
Non, moi je voyage en voyage avec Yuka et Fruita, et je voyage aussi avec Eva, qui est ma copine. Donc Yuka, c'est un petit border collie de 5 ans, et Fruita, c'est une petite mémère de 13 ans maintenant. Donc voilà, donc on voyage avec nos deux chiens depuis à peu près 4 ans. On fait quelques petites aventures à vélo, en van, etc.
Comment ça se fait que, enfin, il y a quand même un petit écart d'âge entre les deux? Vous les avez adoptés en même temps ou vous avez attendu et décidé d'adopter un deuxième chien?
Alors Eva avait déjà adopté Fruita il y a une dizaine d'années. Pendant qu'on était en train de faire nos études à l'université, Eva avait adopté de son côté Fruita à la SPA en Espagne. Et puis après, on a pris Yuka, du coup, 6 ans après Fruita. Voilà. Moi, je voulais un border collie pour faire un peu de sport avec, parce que je fais beaucoup de canicross, du cani VTT, etc. Et je voulais un chien un peu dynamique pour pouvoir faire ça. Donc, par la suite, on a adopté Yuka qui, elle, était tout bébé. Et voilà, donc c'est pour ça l'écart d'âge.
Et c'est chose faite, puisque on s'est rencontrés sur le...
Les championnats de France de canicross.
Sur les championnats de France de canicross, merci. C'est toi qui courais, du coup?
Oui, c'est moi qui courais avec Yuka en canicross, ouais.
Ouais. Trop bien, ça s'est passé comment?
Ça s'est super bien passé, malgré les conditions qui étaient un peu boueuses, on va dire.
Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire.
Le terrain était vraiment pas facile, mais non, franchement, avec Yuka, qui est un petit chien par rapport au gros chien qu'il y avait sur la course, elle s'en est super bien sortie. Même moi derrière, je me suis sentie bien, donc non, vraiment très contente de nous, quoi. Ce championnat de France.
C'est vrai que j'avais jamais été à une compétition avec des chiens, et il y avait beaucoup de chiens assez mastoc, et c'était assez dingue, je trouve, l'énergie qu'il y avait entre tous les duos, c'était fou.
Ah oui, non, c'était là, t'es allé sur la compétition, quoi, parce que il y avait, je crois, plus de 300 chiens, 300 binômes, c'est assez impressionnant, quoi. Et là, t'as vraiment les meilleurs, quoi, les meilleurs de France, et c'est assez impressionnant comme chien, ouais.
Ouais, c'était dingue. Du coup, on s'est contacté pour parler de votre traversée de l'Europe, ouais. Hein, on peut appeler ça comme ça, à vélo, enfin en tandem.
Oui.
Avant de parler de ça, tu m'as dit tout à l'heure en off, avant qu'on enregistre, que vous aviez fait pas mal de voyages à vélo déjà. Comment vous êtes venu à ce mode de voyage?
Ça s'est fait il y a quelques années. En fait, on regardait sur Instagram, on aimait beaucoup un compte. Il s'appelle Biquet Caniné. Et en fait, c'est un gars qui voyage tout seul avec son chien. Ça fait des années qu'il voyage avec son chien sur son vélo. Alors au début, il l'avait dans une caisse derrière sur le porte-bagages. Donc on a commencé à faire des petits voyages comme ça à vélo où on avait installé une caisse sur le porte-bagages. Alors on a fait des petits voyages, hein. On a fait le canal du Midi sur une semaine. On a fait le tour d'Ibiza, pareil, sur une semaine. On en a fait un autre aussi, c'était un petit tour en Catalogne entre l'Espagne et la France. Ça fait une boucle Bah, nous, on l'a fait en une semaine. Tu peux la faire en 2 jours, en 3 jours. Mais nous, on l'avait fait en une semaine avec les chiennes, pareil, avec la caisse. Et du coup, c'est lui qui nous a donné envie, en fait, de voyager avec nos chiens. On s'est dit, bah ouais, en fait, c'est possible, quoi. Donc, on a installé la caisse sur les portes bagages et on a commencé à voyager comme ça avec elle.
Comme quoi, c'est toujours bon, je pense, de partager un peu ce qu'on fait, puisqu'on peut toujours inspirer quelqu'un, même sans
Ah
le
ouais,
savoir.
carrément, carrément, ouais. Oui, et du coup après, bah, par la suite, on a complexifié la chose un peu et on est parti faire ce voyage, cette traversée de l'Europe du nord au sud avec les deux chiennes, mais dans une remorque cette fois-ci.
Ok, comment vous est venue cette idée?
Cette idée de traverser l'Europe, bah, en fait, on avait envie de faire un long voyage et on a cherché un petit peu sur les sites et on est tombé sur les Eurovélos. C'est des longues pistes cyclables qui sont aménagées entre les pays pour former vraiment un seul itinéraire. Donc là, l'idée, c'était vraiment de visiter un maximum de pays. Et on a trouvé cet Eurovélo qui partait du nord de l'Europe, donc en Norvège, et qui terminait en Espagne. Et on s'est dit, bah ouais, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. En plus, l'Espagne, c'est à côté de chez nous. Donc pour revenir après à la maison, ça sera assez facile. Et du coup, voilà, on a décidé de suivre l'Eurovélo 3. Donc voilà. C'était un peu comme...
L'Eurovélo 3, parce qu'il y en a plusieurs.
Oh oui, il y en a plus de 20, quoi. Et ça part un peu partout en Europe, quoi. Il va y avoir une Eurovélo qui va aller de l'ouest à l'est de l'Europe, d'autres qui vont faire le tour de la Méditerranée. Il y en a un petit peu partout.
Ah, génial.
Ouais. Ouais.
Ok, donc que des gros itinéraires.
Ouais,
à vélo.
Des gros itinéraires, ouais, de plusieurs milliers de kilomètres, quoi.
Et donc, ce voyage, il vous a pris combien de temps?
Il nous a pris 4 mois. 4 mois en tout, quoi. Ouais. On a pédalé.
Vous l'avez fait à quelle période, du coup?
On l'a fait, on est parti en juin. Fin juin, ouais. On est parti fin juin.
Ouais, plutôt belle saison.
Ouais. Parce qu'on voulait qu'il fasse bon en Norvège, parce qu'on a commencé en Norvège. Donc, on est parti fin juin de Norvège et on est arrivé mi-octobre en Espagne.
Comment ça s'est organisé? Comment vous êtes parti déjà de chez vous pour aller en Norvège?
Alors du coup, on est parti de chez nous en avion depuis Barcelone. On habite à 2 heures de Barcelone. On est vers Perpignan dans les montagnes. Et on est parti à Barcelone en avion. Du coup, le père d'Eva nous a déposé à l'aéroport de Barcelone. On a fait embarquer les chiens, le tandem.
Attends. Voilà, c'est ça ma question. Ouais. Ça veut dire que vous êtes parti avec deux caisses,
c'est
deux
ça,
chiens, un tandem, mais ça devait être la folie.
C'est ça, ouais, un petit peu. Au début, quand on recherchait pour enregistrer le tandem, toutes les compagnies nous disaient que non, que c'était pas possible, parce que c'est pas standard, quoi. Ça a pas la taille standard. Donc, on a un petit peu grugé. On a parlé avec des gens qui ont l'habitude de voyager à vélo et d'envoyer leur vélo en avion. Et en fait, quand on démonte le tandem, qu'on lui enlève les deux roues, il fait la taille d'un vélo entier avec les roues. Donc du coup, on l'a mis dans une housse en lui enlevant les deux roues et c'est passé. Du coup, c'est passé. On a payé le prix d'un vélo normal. Et du coup, voilà, on a fait embarquer le vélo, le tandem, la remorque à part aussi. Et ensuite, on avait les chiens dans deux caisses aussi.
Et vous en avez fait quoi des caisses en arrivant là-bas?
Alors, du coup, on est arrivé à Oslo. On est allé de Barcelone à Oslo en avion. On est arrivé à Oslo. On avait pris un petit hôtel à côté de l'aéroport et on a laissé les caisses là-bas, en fait. On les avait achetées d'occasion, pas très cher. Et l'idée, c'était de les laisser là-bas. Si on pouvait trouver un moyen de les rapatrier, on les rapatriait. Et sinon, on leur a dit de les donner à une asso, quoi. On avait payé 50 € les deux caisses, c'était pas énorme, quoi. Donc voilà, on a fait comme ça.
Ok, vous avez fait une préparation particulière pour que les chiennes puissent prendre l'avion?
Pour qu'elles puissent prendre l'avion, alors dans la caisse, elles ont pas de souci, les caisses,
ouais, c'était habitué
ça,
déjà.
Elles ont l'habitude déjà, ça, y a aucun problème. Après, pour qu'elles prennent l'avion, non, pas forcément. Bon, oui, il a fallu regarder la taille de la caisse, qu'elle corresponde au chien, mais après, non. Après, il y avait les vaccins et des vaccins à avoir pour que le chien puisse rentrer en Norvège. Mais c'est les mêmes qu'ici en Europe. Et par contre, il fallait lui donner un vermifuge spécial, une quinzaine de jours maxi avant le décollage.
Par le vétérinaire,
mais,
du coup.
Sinon, c'est tout. Ouais, par le vétérinaire, ouais. Mais c'est tout. Après, il y avait rien de spécial à faire.
Ok. Donc, vous arrivez là-bas avec vos grosses valises, vous laissez les caisses, et là, vous êtes à Oslo, donc vous n'êtes pas encore au point de départ.
Alors, déjà, on arrive à Oslo. Il nous avait perdu le tandem à l'aéroport.
Oh non.
Voilà, donc en fait, on a attendu 2 jours à Oslo.
C'est vrai que c'était un voyage qui était prévu sur 4 mois.
Ouais,
parce que tu perds
heureusement,
du temps,
mais...
ça.
Mais tu te dis, bah super, ça commence bien le voyage, on va se régaler. Donc déjà, ils nous ont perdu le tandem. On a attendu deux, enfin le tandem et la remorque des chiens. On a attendu 2 jours en plus sur Oslo pour qu'ils nous retrouvent tout ça. Bon, ils nous ont retrouvé le tandem. Ils nous l'ont ramené à 22h du soir. On n'avait plus d'hôtel à ce moment-là parce qu'on n'avait plus d'hébergement. Et on montait le tandem et la remorque dans la rue à 10h du soir. Heureusement qu'il faisait jour parce qu'il fait jour tout le temps là-bas. Quand c'est en plein été, il fait jour. On n'a que 2-3 heures de nuit. Donc heureusement. Et ensuite, le lendemain, on a pris un train de Oslo à Trondheim. Et on est remonté en train avec tout le chargement, du coup, à Trondheim.
Ok. Pourquoi vous avez choisi un tandem?
Alors, on a choisi un tandem parce que on savait pas, on se sentait pas capable de tirer chacune une remorque avec un chien. Déjà, ça, au niveau du poids, les valises, plus la remorque, on a quand même un chien qui fait 25 kilos, l'autre 18, ça fait quand même des gros chiens. On savait pas si on serait capable de le faire. Et puis, au niveau financier aussi, la remorque qu'on a achetée, la Cruiser, ça reste une remorque assez chère. Et les vélos aussi. Donc, ça faisait un budget. Et puis, sur le canal du Midi, on avait croisé des gens qui, quand on avait fait le canal du Midi, qui avaient voyagé en tandem. Et ils allaient vite, enfin, ils développaient vachement de vitesse. Et c'est vrai que ça nous a donné envie. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas faire ça? Donc voilà, on s'est procuré, on a acheté un tandem d'occasion, mais très bien, un bon tandem. Et voilà, on s'est lancé là-dedans, quoi. Un peu fou.
Mais c'est une bonne idée. Enfin, je trouve ça trop cool, tu vois, à chaque fois que les personnes que j'interview... tu vois, ont un objectif et trouvent des moyens d'y arriver, tu vois, en évitant les difficultés, enfin, en tout cas, ce qui pourrait les freiner. Parce qu'effectivement, je comprends hein, qu'on ne se sente pas capable de tirer autant sur si longtemps. Mais je trouve ça trop chouette que vous soyez dit, OK, ça, c'est pas trop envisageable pour nous. Comment on peut faire du coup?
Ouais. Bah après, en voyant les autres, en voyant Marine de pied et patte, Lucie aussi, cyclopathe, qui, elles y sont arrivées à tirer une remorque. On s'est dit, s'il faut, on y serait arrivé. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'en voyait pas capable. Et puis, bon, l'histoire du tandem, ça nous avait bien chauffé. Donc,
oui, et puis voilà. Maintenant, vous avez eu cette expérience. Donc, ça donne aussi confiance, j'imagine, pour la suite.
Ah, bah oui, complètement. Complètement. Ouais.
Trop cool. Donc, vous arrivez en train, au point de départ, c'est ça?
À Trondheim, ouais. Okay. Ouais. À peu près à 1000 km au nord de Oslo, quoi.
Ok. Et là, comment ça se passe?
Et là, bah, du coup, on arrive là-bas en train, on arrive à l'hôtel, etc. Et du coup, le lendemain, on monte tout, le vélo, le tandem, la remorque, et c'est là qu'on commence, du coup, notre voyage, quoi.
Ok. Et juste, je t'ai pas demandé, le train en Norvège, comment ça se passe pour les chiens?
Oh ben c'était super. Enfin, ils avaient. Alors par contre, on leur a payé une place. Oui, ça oui. On leur a payé une place et en fait, ton chien, il peut être à côté de toi sur le siège à côté. Il y a aucun souci. Non, pour ça, ils sont vraiment super quoi. Pas muselés ni rien. Non, tu. Voilà, c'est comme un enfant quoi. C'est un peu pareil.
Donc vous montez votre tandem et là vous êtes prêt à partir pour 4 mois de voyage. L'idée c'est quoi? C'est de pédaler tous les jours, c'est de chiller et de visiter aussi un petit peu. Comment c'est dans votre esprit à ce moment-là?
Ben nous au début on y allait un peu dans l'esprit où on va voyager, on va visiter quoi. Et c'est vrai que tout de suite on se rend compte qu'en fait on va plus pédaler qu'on va visiter quoi. Parce qu'on pensait pas qu'on allait passer en fait autant de temps sur notre vélo. Ça, c'est vrai, on y était allé avec l'idée de voyager comme on a l'habitude de faire, aller dans les villes, voyager, goûter à la nourriture du coin, etc. Et là, c'est vrai que tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, on se dit, ah ouais, ça sera pas juste de la visite, un voyage tranquillou, ça va être un peu plus physique, parce que dès le premier jour, on a attaqué, je sais pas, avec 1000 mètres de dénivelé sur 40 kilomètres, là, chargé comme des bêtes, et on s'est dit, mais waouh, ça va être difficile. Du coup, on a changé un petit peu notre manière de voir les choses. On s'est dit, ça va être aussi un défi sportif, en fait. Parce que si on reste qu'avec l'idée que ça va être du voyage tranquille, reposant, on va pas y arriver. Et du coup, on a un peu changé l'idée. Bon, on pédalait. Et puis, en fait, les jours où il pleuvait, ben, on s'arrêtait dans un camping. On restait au chaud au camping, on bougeait pas de là-bas. Et après, de temps en temps, quand on arrivait dans des grandes villes, là, oui, on pouvait se prendre un ou deux jours de repos, ou là, on se reposait, on prenait une petite chambre d'hôtel, et là, on se reposait un peu. Voilà.
Ouais, parce que j'imagine, après autant de pédalage, je pense que visiter à pied une ville, etc., mais ça doit être tellement... Enfin, tu dois te dire, c'est le bout du monde de faire ça, non?
C'est ça. Ouais, bah après, en même temps, t'es content de marcher un peu. Tu dis, ah, c'est cool aussi de marcher.
Ça repose le fessier.
Mais ouais, c'est clair. Mais après, non, même des fois, on a visité des villes à vélo. Hein. Paris, on s'est fait tout Paris à vélo. Enfin, c'était chouette, c'était génial. Bon, sans les bagages ni rien, on avait tout laissé. En général, on laisse tout à l'hôtel. Mais après, des fois, ouais, on prenait le tandem à vide, là, et on allait visiter aussi. C'était chouette aussi, hein. C'était sympa.
Parce qu'en termes de sécurité, enfin, du coup, vous avez un paquetage qui est assez long. Comment ça se passait,
ouais.
Tu vois? Est-ce qu'il y a des moments où vous passiez sur des routes? Enfin, comment vous faisiez pour que ça reste sécure pour tous les quatre?
Du coup, ouais, on est en Norvège, on a fait beaucoup de routes. Après, les chiens en général, ils étaient dans la remorque, hein, quand il y avait des routes. Sinon, après, on a fait aussi, on avait un système de barres qui sortait de la selle du derrière d'Eva. Eva est derrière sur le tandem, Eva est derrière et moi je suis devant et ça change pas.
Ok.
Parce qu'on a nos réglages de, ouais, on a nos réglages de guidon, de selle, donc du coup ça en touchait pas. Et du coup Eva sur sa tige de selle à elle derrière, elle avait une barre qui sortait avec deux laisses en fait. Et du coup les chiennes, quand on pouvait pas les avoir dans la remorque parce que ça montait trop, on les accrochait à cette barre et à cette laisse, donc du coup elles étaient vraiment sur le côté droit de la route et nous on les protégeait un peu avec le tandem. Après, quand il y avait vraiment trop de trafic, on les gardait dans la remorque. Ça oui. Mais après, on a fait vraiment beaucoup beaucoup de pistes, beaucoup de pistes cyclables. Vu qu'on suit l'Eurovélo, ça reste quand même des trajets assez, enfin c'est assez cyclable quoi. Donc c'est pensé pour et donc c'était beaucoup de pistes cyclables, beaucoup de pistes de terre, etc. Donc assez sécure quoi, pour les chiens, pour nous, ça ouais, on n'a jamais eu de soucis pour ça.
Et justement, vos chiennes, comment vous les avez habituées à ce mode de voyage? Enfin, ça s'improvise pas, ça reste un truc qui au départ est nouveau, j'imagine.
Oui, ça c'est sûr. Après, je sais que, enfin, nos chiennes, elles aiment être avec nous, et c'est vrai que c'est assez simple avec elles quoi. On a jamais trop réfléchi à ça. Elles sont à côté du vélo. Elles savent faire le haut pied, donc elles restent à côté du vélo. Et après, même sur quand ça faisait des mois et des semaines qu'on voyageait, des fois elles rentraient toutes seules dans la remorque. On était à l'arrêt, elles remontaient toutes seules dans la remorque. Enfin, elles adorent ça. Enfin, ça a été assez naturel pour le coup. On n'a pas eu besoin de trop les adapter à tout ça. Elles nous ont suivies un peu dans nos folles aventures, quoi. C'est vrai qu'elles ont jamais, on n'a jamais l'impression qu'elles aiment pas ça, quoi. Elles aimaient ça, quoi. De courir à côté du vélo, d'être dans la remorque. Il y a jamais eu de soucis. Fruta, souvent, elle dormait dedans. Non, il n'y avait pas de... Ça a été assez simple, quoi. Ça a été assez simple.
Et ouais. Si jamais il y a une personne qui nous écoute, qui aimerait bien se lancer dans ce type d'aventure, mais qui a jamais fait de vélo avec son chien, qu'est-ce que tu lui conseillerais?
Ouais. Ah bah déjà, je lui conseillerais de sortir un petit peu avec son chien en libre, quoi. Nous, ici, on fait beaucoup de sorties VTT, donc souvent, les chiennes, elles viennent avec nous. Donc déjà, les habituer au vélo, quoi. Les habituer au vélo, les sensibiliser à ça, et surtout leur apprendre d'être à côté du vélo. Je pense que ça, c'est important, de leur apprendre d'être à côté. Et non, voilà, après, surtout qu'ils s'habituent au vélo, quoi. Après, si le chien, il aime ça, qu'il voit pas ça comme un danger... Normalement, il y aura pas de souci, le chien il te suivra quoi.
Si on repasse un petit peu plus donc sur le voyage en lui-même, je suis désolée, je pars absolument dans tous les sens,
je suis le flot
de mes questions qui me viennent au fur et à mesure. Donc vous partez de Norvège et quelles sont les étapes? Vous avez prévu de passer par où, peut-être en combien de temps, etc. Enfin un peu la roadmap de votre voyage.
Ouais, alors du coup, bah, on est parti de Norvège, donc on a commencé à Trondheim, à 1000 kilomètres au-dessus, au nord de Oslo. Donc on est arrivé à Oslo après. On a traversé en fait du nord au sud de la Norvège, en passant vraiment par le centre. Donc c'est un petit peu les montagnes, c'était un peu montagneux. Et on est arrivé à Oslo. De Oslo, on est parti en Suède à Göteborg. Voilà, on est allé donc de Oslo en Suède, on est arrivé à Göteborg et là on a pris un petit ferry pour aller au Danemark. On est arrivé au nord du Danemark Et ensuite, on est descendu vers le bas. On a traversé tout le Danemark du nord au sud, du coup. Mais pas en passant par la côte. Sinon, pareil, on est passé au centre du Danemark, dans les champs, les campagnes. C'est vraiment chouette. Et ensuite, on est arrivé, du coup, en Allemagne. En fait, tu descends le Danemark tout droit et t'arrives à Hambourg, en Allemagne. Et là, on est parti direction les Pays-Bas. Donc, cap à l'ouest. Et on est arrivé, on a fait Brême en Allemagne. Et ensuite, on a passé la frontière aux Pays-Bas. Et là, pareil, on a traversé les Pays-Bas du nord au sud. Voilà. Mais alors, les Pays-Bas étaient pas au programme à la base. En fait, normalement, l'Eurovélo 3, elle se fait l'Allemagne. Et ensuite, elle va en Belgique. Et les Pays-Bas n'y sont pas dedans, mais on avait croisé des voyageurs qui étaient passés aux Pays-Bas, etc. Et on s'est dit, il faut qu'on y aille, quoi. Et on a été super contente. En plus, quand tu arrives de la Norvège, que tu arrêtes pas de monter, de descendre, etc. Les Pays-Bas, c'est un peu le Graal, quoi. C'est tout plat, tu te régales. Enfin, tu pédales pour de vrai. Et du coup, on a visité les Pays-Bas, quoi. On est passé par les Pays-Bas, on a rajouté les Pays-Bas et on a récupéré l'Eurovélo 3 en Belgique, du coup. Donc après les Pays-Bas, hop, Belgique, Anvers, Bruxelles, et puis ensuite la France. On est arrivé en France par le nord de la France, et là on est allé jusqu'à Paris. Du coup, on est arrivé en France, on a fait un gros arrêt à Paris où on a visité Paris. Et en fait, pendant le voyage, il y a Eva qui s'est fait mal au dos. Eva avait une hernie discale au niveau des lombaires. Et elle s'est fait mal au dos. Et en fait, depuis la Norvège presque, elle avait très mal au dos. Donc dès qu'elle descendait du vélo, elle avait une grosse sciatique dans la jambe. Elle avait très mal dans la jambe. Et elle pouvait pas marcher presque. Hein. Mais par contre, sur le vélo, elle avait pas mal. Donc on a continué à pédaler, à pédaler. Arrivé au Danemark, on a essayé de trouver une solution pour revenir en fait, pour revenir en France, pour se faire rapatrier, parce qu'Eva avait vraiment trop mal. C'était vraiment insupportable pour elle. Et on n'a pas trouvé de solution. Soit c'était le tandem qui allait pas, ça passait pas. Soit c'était parce qu'on avait les chiens, donc il y avait aucun moyen de transport pour nous faire revenir. C'était vraiment trop compliqué. Donc du coup, on a pris la décision de continuer et au moins d'arriver jusqu'à Paris. Donc du Danemark jusqu'à Paris.
Quand t'as mal au dos,
Eva
ça
serrait
fait
les
quand
dents.
même une belle distance,
Ah,
hein?
ça fait très très long. Oui, ça fait très très long. Alors par chance, elle avait pas mal au dos sur le vélo, donc ça c'était chouette. Déjà, ça c'était bien. Mais dès qu'elle descendait du vélo, fallait qu'elle s'assoie. C'était moi qui devais monter le campement tous les soirs et le défaire parce que du coup, elle pouvait rien faire, la pauvre. Et voilà. Donc du coup, on est arrivé à Paris. Et là, à Paris, il y a eu un petit changement de planning. Il y a Eva qui a pris un train et qui est revenue à la maison chez nous à Perpignan, vers Perpignan. Et de là, elle a pris son père aussi, qui est venu en voiture et ils sont remontés tous les deux à Paris, là où moi j'attendais avec les chiennes en fait. Et là en fait, Eva elle a fait de Paris à Saint-Jean-Pied-de-Port dans le sud là de la France. Elle l'a fait en van, elle nous a suivis en van et moi j'étais avec le père d'Eva en fait.
Ok, donc vous avez
Voilà,
ramené le père
à
d'Eva dans
vélo.
l'aventure, trop cool.
À vélo, voilà. Du coup, on l'a un peu embarqué. Bon, il était très content. Hein. Donc, alors par contre, on l'a fait chacun avec un vélo. Lui, il avait son vélo, moi j'avais mon vélo. On a fait ce bout de la France tous les deux à vélo et Eva nous suivait avec le van, en fait. Et dans le van, on avait mis le tandem, etc. Donc là, il y a eu un petit changement de planning à ce moment-là pour que Eva puisse récupérer, pour que son dos aille mieux. Mais en même temps, on s'est dit, on n'avait pas envie d'abandonner, on n'avait pas envie de rentrer à la maison tout de suite. Et du coup, on a fait comme ça. Donc, on a fait la traversée de la France. On l'a fait, je l'ai fait moi avec le père d'Eva à vélo et Eva en van, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, là où commence en fait le chemin de Compostelle. Voilà, parce qu'en fait, l'Eurovélo, la dernière partie en Espagne, ça suit en fait le chemin, le Camino Francés, ils appellent ça. C'est le chemin de Compostelle qui va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, de Saint-Jean-Pied-de-Port à
Là, Eva
Saint-Jacques-de-Compostelle.
a pu te rejoindre.
Et là, Eva, du coup, on a laissé le van à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, on a repris notre tandem. Le père d'Eva nous a continué à nous suivre avec son petit vélo. Et on est arrivé jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Du coup, quoi, ça devait faire 700, 800 kilomètres de vélo à peu près. Donc voilà. Voilà l'histoire un petit peu. Les grosses étapes du voyage.
Bah, trop cool encore une fois que vous ayez pu trouver une solution pour ne pas abandonner le voyage justement. Mais ouais, j'imagine qu'en ayant mal, ça doit vraiment pas être simple. Et tu disais que du coup, c'est toi qui montais le campement. Donc, l'idée, c'était de dormir en tente tous les soirs?
Oh oui, on a fait 90% du voyage, on a dormi en tente.
Ok, avec les
Ouais,
chiens.
ouais, ouais. Avec les chiennes, oui, en tente. Bah après, c'était assez facile pour camper. Norvège, Suède, on n'a pas eu de soucis, il n'y a aucun problème pour faire du campement, du camping sauvage, ça, il n'y a pas de souci. Sauf les jours où il pleuvait, là, on allait au camping. Là, oui. Et pour avoir un peu plus de confort, parce que dans ces campings nordiques, ils ont des petites salles à disposition pour les voyageurs. Donc, on pouvait s'abriter dans ces petites salles pendant la journée quand il pleuvait. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Après, du coup, ben, au Danemark, il y a le système des shelters, là. C'est comme des petits refuges en bois. En fait, c'est des zones de camping. T'as pas le droit de faire du camping sauvage au Danemark. Mais par contre, ils ont aménagé des petites zones de camping un peu partout. Il y en a vraiment partout. Il y a même une application avec tous les shelters du Danemark. Donc, tu prends ton
Et ça fait
application,
comment?
t'as un shelter. Shelter.
Ok.
Shelter. Je te le marquerai. Et du coup, tu as cette application. Et en fait, avec ça, tu trouves ton petit shelter. Alors souvent, tu as une petite baraque en bois avec un coin feu. Des fois, tu peux même avoir une toilette. Enfin, c'était vraiment chouette, ça, pour camper au Danemark. C'était parfait. Et après, bon, la France, la Belgique, ça, il n'y a pas eu de souci non plus pour faire du camping. Ou sinon, au camping, hein, tout simplement. Tout simplement.
Et du
Donc...
coup, au niveau de l'organisation, vous prévoyez en amont où est-ce que vous allez vous arrêter pour dormir ou quand c'était à peu près l'heure d'arrêter de pédaler, vous arrêtiez là et vous montez le campement.
Bah en général, la veille, moi, je regardais l'étape qu'on voudrait faire. Ah, t'as Fruta qui rêve, là.
J'ai pas
C'est
entendu.
Fruta qui... Elle est en train de rêver à côté.
Et moi, j'ai
Et
Floki qui ronfle. Alors, si on l'entend aussi,
c'est vrai. Non, ça
c'est
va,
la
on
sieste
l'entend
des
pas, on
chiens.
l'entend pas. Ouais, c'est ça. Dimanche après.
Exactement.
Et... ouais, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, non, en fait, la veille, on regardait un petit peu l'étape qu'on voulait faire, les kilomètres qu'on voulait faire et où on voulait s'arrêter pour dormir. Donc, soit ben, on voyait qu'il y avait un camping dans cette zone et du coup, ben, on allait au camping directement. Soit on voyait qu'il y avait des shelters pas loin ou une zone un peu verte avec une rivière, ben, on va s'arrêter là, quoi. En général, la veille, on prévoyait l'étape du lendemain. Voilà. Et bon, après, si on devait s'arrêter avant, on s'arrêtait avant, mais en général, on arrivait à aller à la fin de l'étape, quoi.
Ok, trop cool. Et pour
Ouais.
continuer les questions organisation, comment vous faisiez pour
Ouais.
l'alimentation des chiennes?
Alors, pour l'alimentation des chiennes, bon, bah, déjà, on est parti avec leurs croquettes, hein. On avait à peu près 10 kilos de croquettes dans la remorque, en plus. Et après, ensuite, en Norvège, on leur a changé un peu les croquettes, mais on essayait de s'arrêter dans des animaleries. Et on essayait de prendre des croquettes vraiment où la composition de la croquette correspondait un peu à la composition de celle dont elles ont l'habitude. Par exemple, elle digère pas la viande, donc on lui prenait des croquettes au poisson, quoi. Et en général, si la composition était un peu pareille, il n'y avait pas de souci. Donc, dès qu'on voyait qu'on était un peu en rade de croquettes, ben, on essayait de chercher une animalerie dans une ville et on s'arrêtait acheter ça là-bas. Et après, par contre, en France et en Espagne, on s'est fait livrer les croquettes, en fait. Parce qu'avant de partir, on avait fait un petit partenariat avec une marque de croquettes, Gosby, ça s'appelle. C'est des croquettes qui sont faites ici en Espagne, à côté de chez nous. Et en fait, ils étaient OK pour nous envoyer gratuitement des croquettes, en fait. Donc, c'était un petit peu une petite façon de nous sponsoriser, quoi. Donc, du coup, en France, c'était un peu différent. Eva, quand elle est revenue chercher le fourgon chez nous, le van, elle est allée acheter un gros paquet de croquettes. Donc là, ça compte pas. Mais après, en Espagne, ils nous ont envoyé des croquettes dans des points de vente où eux, ils vendaient ces croquettes-là, en fait. Donc en Espagne, on disait bah, dans 2 jours on arrive dans cette ville, est-ce que ce serait possible d'avoir des croquettes? Ils nous disaient oui, passez à telle animalerie, tel vétérinaire ou quoi, et là vous aurez les paquets de croquettes, vous avez juste à les demander et du coup on a pu faire comme ça. Ouais, non, c'était vraiment chouette. Donc en plus on s'est économisé un petit peu des sous et puis en plus on avait les croquettes toutes prêtes et c'était les croquettes des chiennes aussi, donc voilà. Mais après, le fait de changer l'alimentation, ça les a pas du tout perturbés. Enfin, vraiment, je pense que si on regarde bien la composition des croquettes, on essaie de faire au mieux que celles qu'ils ont l'habitude de manger. Normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, voilà. Après, c'est sûr, on leur a jamais acheté des croquettes de supermarché ou bas de gamme. C'est sûr que ça, c'est plus difficile
à digérer. Donc là, pour le coup, ouais, on a fait comme ça. Et ça s'est super bien passé.
Et de manière générale, vous avez trouvé comment l'accessibilité aux chiens dans les pays que vous avez visités? Est-ce qu'il y avait des grosses différences? Pas du tout.
Ouais, il peut. Oui, il pouvait y avoir des différences, oui. Après, dans tout ce qui est pays nordiques, on n'a pas eu aucun souci avec les chiens quand ils sont assez pet friendly. Vraiment, ils nous les ont acceptés partout. Partout, même dans les campings. Des fois, on disait, on a deux chiens. Ah oui, non, mais c'est pas grave, c'est pas un souci. Enfin, même ils s'en foutaient qu'on ait deux chiens, quoi. Les chiens ne payaient même pas dans les campings. Enfin, c'était vraiment chouette, ça, pour le coup. Après, les restos, c'est vrai que les restos, on n'en a pas trop fait. Mais les peu qu'on a fait, on n'a jamais eu de soucis, quoi. Au contraire, hein, ils sont super contents de voir des chiens. Ça, on n'a pas eu de problème. Les ferries, pour prendre les ferries, les petits ferries d'une île à l'autre et tout ça, ça, il n'y a eu aucun problème aussi. Après, là où c'est un peu plus difficile, c'est l'Espagne. L'Espagne, c'est un petit peu plus difficile pour qu'ils acceptent les chiens. En Espagne, comme on a suivi le chemin de Compostelle, il y avait beaucoup d'auberges. Et des fois, on avait envie de dormir dans une auberge. Pour 10 euros la nuit, tu dormais dans une auberge, c'était vraiment pas cher. Mais là, du coup, il y avait très peu d'auberges qui acceptaient les chiens.
Mais j'ai l'impression que les auberges, de manière générale, c'est un peu compliqué pour les
ouais,
chiens.
C'est un peu compliqué, ouais. Ouais. Donc, certaines nous ont accepté, mais en fait, on privatisait la chambre, quoi. Donc souvent c'était une chambre avec trois lits superposés. Ben bon, on était trois, ça va, mais du coup on devait privatiser la chambre parce qu'ils voulaient pas mettre personne d'autre dedans, quoi. Voilà. Mais dans l'ensemble, on a été agréablement surprise. Ouais ouais ouais. C'était chouette. c'était un peu aussi pour ça qu'on faisait ce voyage. L'idée de faire ce voyage avec nos chiens, c'était aussi un peu pour sensibiliser les gens, leur dire ben voilà, tu vois, tu peux, si t'as envie, tu peux voyager avec ton chien et tu peux le faire, il y a aucun problème. Même les gens, ils étaient quand ils nous voyaient arriver avec notre convoi de 5 mètres de long, ils étaient, alors avant de voir le tandem, ils voyaient d'abord les chiens dans la remorque, quoi. C'était impressionnant, c'était ah mais vous avez des chiens, mais comment vous faites? Et après ils voyaient le tandem, après ils disaient, ah mais en plus vous êtes en tandem. Enfin, c'était vraiment, nous on pensait que c'était le tandem qui allait les marquer. Et non non, pas du tout, c'était le fait de voyager avec nos chiens. Et du coup, bah, c'était un peu pour ça qu'on a fait ce voyage aussi avec elle, pour vraiment les sensibiliser les gens là-dessus, qu'on peut voyager avec nos chiens et il y a aucun problème.
Ouais. Et je trouve ça trop intéressant. Ouais. Il y a pas longtemps, j'avais partagé un réel sur les pays qu'on peut visiter avec son chien. Bon, là, pour le coup, vous avez commencé par l'avion, mais j'ai eu un commentaire qui disait oui, comment on fait si on veut pas mettre son chien dans l'avion? Bah, il y a tellement de façons de se déplacer aujourd'hui que t'as vraiment le choix et t'es pas obligé de prendre l'avion si t'as pas envie de
le
prendre.
Ah ben non, pas du tout. Ouais, ouais, pas du
et
tout.
Vous en êtes la preuve.
Nous, on est monté en avion là-haut, mais si on avait le temps, on n'y serait pas monté en avion, quoi. On avait cherché d'autres options pour y aller autrement, et il y en avait, hein. Il y en avait, juste que on avait aussi un temps restreint, malgré qu'il soit long, on avait quand même un temps restreint et voilà. Donc, mais oui, il y a plein de possibilités. Hein. Il y a plein de possibilités. Suffit de vouloir.
Ah mais complètement. Je te rejoins complètement là-dessus. Bon, après, effectivement, il y a des endroits où ça va être plus compliqué d'y aller, tu vois, à part en prenant des énormes bateaux. Mais bon, après, il faut s'adapter. Hein, c'est comme tout.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Si tu sais qu'il y a des voyages, bah, si tu as un chien et que tu veux l'emmener, tu pourras peut-être pas le prendre, ça c'est sûr.
Ou avec d'autres difficultés.
Mais du coup, il y en a tellement d'autres de voyages à faire.
C'est clair.
avant d'avoir fait tout ce qu'on a à faire.
Il y a du travail.
Il y a du boulot, ouais.
Est-ce que vous avez eu des difficultés en particulier pendant ce voyage? Enfin, je veux dire, mis à part le mal de dos de ta compagne.
Ouais, on a eu beaucoup de difficultés au tout début du voyage avec le vélo, en fait, le tandem. On a eu beaucoup de pépins mécaniques, en fait. Donc, on n'a pas arrêté. On nous avait fait une mauvaise révision du tandem. Donc, en fait, on a plein de choses qui ont cassé au tout début, quoi. Le tandem, le poids, le dénivelé, il a pas supporté. Donc, on a cassé des millions de rayons. On a cassé la chaîne. On a cassé mais plein de choses. Et en fait, au fur et à mesure, heureusement, on était en Norvège, donc c'était très cher à réparer. Mais bon, heureusement, on a toujours réussi à trouver. Ou se faire réparer et assez bien. Et donc du coup au début on a eu beaucoup de soucis mécaniques et c'est vrai que ça a été dur mentalement parce que quand tu commences le matin, t'as même pas fait 5 km et t'as cassé ta chaîne. c'était pas facile, quoi. Ou je sais pas, t'as pédalé dans la journée, t'as cassé deux rayons. Bon, après, on était des expertes en mécanique de vélo, hein. Du coup, on a beaucoup appris. C'était génial. Hein. ça a vachement joué avec nos nerfs. Et arrivé en Allemagne, ça a été la fin des problèmes. Bon, en fait, on avait tout changé sur le vélo.
Ouais,
donc tout
était
neuf. Donc, du coup, après, on a fait de l'Allemagne à l'Espagne, nickel, quoi. On a eu plus aucun souci. Mais au début, ouais, ça a été très dur. Mentalement surtout, parce que tu te dis, mais attends, faut que j'arrive dans 3 mois, là, faut que j'arrive en Espagne, mais je vais jamais y arriver, quoi. Et enfin, donc là, ça a été dur. Ça a été les plus gros soucis qu'on a eu, avec en plus le mal de dos d'Eva. Ça a été vraiment les deux gros soucis. Après, pour le reste, non, pour le reste, franchement, nickel. Oui, après, on a eu aussi des petits pépins physiques. Yuka s'était fait mal à une griffe, elle s'est arraché une griffe pendant le voyage. Donc voilà, mais après ça c'est des petits soucis. Donc elle a été 2 semaines en remorque où elle pouvait pas sortir de la remorque parce que elle pouvait pas courir, il fallait attendre que la griffe se répare. Donc ouais, mais
elle était pas trop frustrée.
Ça allait, franchement ça allait, mais à la fin on voyait que quand elle allait mieux là ça y est, elle en pouvait plus, elle avait qu'une envie, c'était de sortir de sa remorque. Ouais c'est ça. Mais au début non, au début elle était assez sage, on était d'ailleurs surpris, on s'est dit on dirait qu'elle sait ce qu'elle a et que du coup allez je suis sage, je reste sage et je me guéris et après je courrai. Voilà, mais sinon à part tout ça non, franchement pas de gros pépins sinon.
Okay. Et pour partir sur le côté un peu plus positif, est-ce que vous avez des souvenirs plus mémorables que d'autres, enfin vraiment qui vous ont marqué, que vous avez ou des endroits que vous avez particulièrement aimés?
Après les souvenirs, les bons souvenirs, ouais, on en a pas mal. Ouais, surtout les gens, quoi, surtout les rencontres qu'on fait, en fait, hein. C'est je pense c'est un peu ce qui ressort pour tous les gens qui voyagent de cette façon-là, c'est vraiment les rencontres qu'on fait avec les locaux, les gens qui t'accueillent chez eux. On s'est fait accueillir par une famille, ils étaient même pas chez eux, ils nous ont caché la clé, on les connaissait pas du tout, ils nous ont caché une clé et on a pu profiter de leur maison pendant toute une soirée, enfin des choses comme ça, tu te dis vraiment c'est génial. Donc surtout les rencontres, après les paysages, etc. Oui, le paysage était extraordinaire, c'était génial aussi. Hein, on a vu ce qu'on aime dans le fait de voyager, c'est de pouvoir aussi voir d'autres choses dont on n'a pas l'habitude de voir. Donc là, on est passé dans des endroits où vraiment on a vu des paysages qui changent, qui sortent de notre vie de tous les jours. Et surtout aussi, ça a été l'arrivée, quoi. L'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est vrai que ça a été un gros moment fort en émotion. On n'était pas encore arrivé parce qu'il y a cette place centrale, en fait, à Saint-Jacques-de-Compostelle, là où il y a la cathédrale, en fait, où tous les pèlerins arrivent. Donc déjà, il y avait tous les pèlerins qui ont fait Saint-Jacques-de-Compostelle à pied ou à vélo qui arrivaient. Et nous, on est arrivés là de nos 4 mois de voyage et c'est vrai que c'était vraiment super émouvant. Je pourrais en pleurer rien que d'en reparler, quoi. C'était vraiment super émouvant.
Il y avait du monde qui vous attendait à l'arrivée?
Non, il y avait pas nos familles, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un live, ouais, sur Instagram, pour justement que nos familles, nos amis puissent suivre notre arrivée en direct. Donc ceux qui pouvaient et qui travaillaient pas, ils nous ont suivis, ils nous ont regardés. Mais après on est arrivé sur la place et il y avait beaucoup beaucoup de monde, il y avait vachement de pèlerins et tout le monde est venu nous applaudir, est venu nous voir, a fait des photos avec nous. On s'est senti comme des superstars pendant une heure, je pense. Je sais pas combien de temps on est resté sur cette place, mais tout le monde voulait faire des photos avec nous, tout le monde nous demandait ce qui nous arrivait. On se disait, mais pourquoi elle pleure? Pourquoi enfin, tu vois, il y a tout le monde arrivé de son chemin de Compostelle et nous là on arrivait, on pleurait, enfin
ouais,
du coup, on leur a expliqué. Ouais, c'est ça. Et puis 4 mois de galère, quoi. Oh. 4 mois de galère aussi, parce que entre le dos des vals, les pépins mécaniques et tout ça, c'était aussi une petite revanche sur les gens qui nous avaient dit qu'on n'y arriverait pas parce que on avait trop de pépins, etc. Donc ouais, et puis la fin de l'aventure, tu te dis mince, ça y est, c'est fini aussi, quoi. Donc tu y prends goût quand même.
Ouais. J'ai quelques questions sur le retour à la maison, mais juste avant, tu m'as dit qu'il y a des pays qui t'avaient, enfin des endroits qui vous avaient vraiment plu, etc. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu veux partager, vraiment des endroits que t'as visités ou que tu conseilles vraiment d'aller voir si jamais quelqu'un prévoit le même voyage?
Nous, au niveau en termes de paysage, etc. On a beaucoup aimé les Pays-Bas. Et surtout à faire à vélo, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment le monde du vélo. Après l'Espagne, on a adoré aussi cette partie de l'Espagne. C'était vachement, tu pouvais passer de la montagne avec les arbres aux champs de maïs. Enfin, c'était vraiment des paysages assez marquants et c'était ça aussi que j'ai beaucoup aimé faire à vélo parce que justement tu passais d'un paysage à l'autre, dans les vignes. Enfin, c'était vraiment super chouette, l'Espagne. La Norvège aussi, on a beaucoup aimé. Après, on n'est pas passé à côté des fjords et ça nous a un peu manqué. On nous a dit que vraiment les fjords, c'était vraiment la chose à faire et c'est vrai qu'on n'en a pas fait beaucoup. Donc la Norvège, mais après magnifique quoi. Enfin maintenant on revoit les vidéos et tout. C'est vrai que en Norvège on avait tellement de problèmes mécaniques qu'on n'a pas tellement profité du paysage. C'était dur de profiter du paysage parce que ouais il y avait beaucoup de frustration etc. Mais maintenant on revoit les images et on se dit waouh c'était magnifique aussi quoi. Tu vois ça donne envie d'y retourner. Donc ouais surtout ces trois pays-là on s'est vraiment régalé quoi.
Trop cool. Qu'est-ce que ça change pour vous d'emmener vos chiennes dans vos aventures?
Qu'est-ce que ça change pour nous? Bah, c'est pas pareil, quoi. Quand elles y sont pas, on a l'impression qu'il nous manque quelqu'un, quoi. Et puis après, on aime partager ces moments-là avec eux. Je pense comme des parents avec leurs enfants. Alors, on n'a pas d'enfants, mais je pense que c'est un peu la même chose. On aime pouvoir partager des moments avec eux. Et on les voit heureuses, quoi. On les voit contentes, là, quand elles sont là en train de... Elles sortent de la tente le matin, elles vont se rouler dans l'herbe. Enfin, c'est vraiment chouette de pouvoir partager ça avec elles. Et ouais, et puis aussi, pour sensibiliser un peu les gens aussi, qu'on peut voyager avec son chien. Enfin, ouais, non, un peu tout. Et puis, on est tellement habitué de tout faire avec elles que on n'imaginerait pas faire un voyage sans elles, quoi. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Donc. Voilà, surtout pour ça.
Au final, c'est compliqué de faire sans elle, pas de voyager avec son chien, quoi.
Ouais, complètement, ouais. Complètement, ouais. Bon, on essaie de chercher des petits voyages à faire sans chien. Hein. Eva a envie de faire des voyages un peu à l'étranger sans chien aussi, parce que c'est vrai que forcément, quand t'as un chien, il y a des choses que bah, tu pourras peut-être pas visiter. T'as envie de rentrer dans la cathédrale, bah, il faut qu'il y en ait une qui attende dehors. Voilà, c'est sûr que t'as aussi des limites, hein, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais
oui, mais comme quand tu voyages avec un enfant, j'ai envie de dire, généralement, bah, si tu veux aller en boîte le soir, faudra que ce soit chacun son tour, ou que tu ailles pas, ou je sais pas.
C'est ça. Ah oui, non, mais c'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est sûr. Il y a des bons et des mauvais côtés, ça c'est clair, mais après, voilà, il faut s'adapter, quoi. Tu t'adaptes.
Le retour à la maison, comment ça a été après 4 mois de voyage?
Bah, ça a été un peu dur, le retour à la maison. Surtout qu'Eva, du coup, au retour de la maison, elle s'est fait opérer du dos. Du coup.
Ah ouais, d'accord.
Et ouais, du coup, il y a eu une opération à la suite. Mais après, ouais, ça a été dur de retourner dans cette routine de les impôts, tous les problèmes de la vie de tous les jours. En soi, moi, j'étais contente de retrouver... on était contente de retrouver nos familles, le lit, oui, notre lit, etc., notre petit confort, notre cuisine, etc. Mais c'est vrai qu'après, après ça a été dur. Enfin voilà, moi je vois un rayon de soleil, on a envie de repartir à vélo, quoi. C'est ça qui est compliqué, mais bon, on se dit qu'il va y en avoir d'autres des voyages à vélo.
Vous en avez prévu d'autres justement ?
Pas pour l'instant, mais oui, c'est. C'est prévu. Moi, je suis déjà partie. Là, Eva était pas là, mais je suis partie 3 jours à vélo avec les chiennes. J'ai pris, moi, les chiennes toutes seules et je suis repartie à vélo 3 jours. Donc, c'est sûr qu'il y aura des petites sorties comme ça, là. Là, prochainement, là, il y a le pont de l'Ascension. On est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va faire pendant ces 4 jours, là. Donc, oui, il y aura des petites choses. Après, des gros voyages comme ça, c'est quand même une grosse logistique. Au niveau du boulot, c'est pas facile non plus.
Et, oui, il faut pouvoir se permettre de quitter son emploi 4 mois. C'est pas évident pour tous à faire ça.
Ouais. Non, c'est sûr. Après, oui, après, on a des projets. On aimerait bien aller en Amérique du Sud, retourner en Amérique du Sud, mais cette fois-ci avec les chiens aussi, parce que la première fois, on l'avait fait sans les chiens. Donc là, l'idée, ça serait d'y aller avec les chiens. Et alors, en vélo, en van, on sait pas trop encore. Mais en tout cas, ouais, ça serait peut-être le prochain gros voyage, quoi.
Si les personnes qui nous écoutent ont des questions ou aimeraient, tu vois, échanger avec vous ou plus en profondeur, où est-ce qu'elles peuvent vous contacter ?
Nous, du coup, on a une page Instagram, Facebook et on a aussi un canal YouTube.
Ok.
C'est le... Je te l'enverrai. C'est un peu compliqué à dire.
Ouais, je le mettrai le lien.
Voilà.
Je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent aller voir.
Du coup, voilà. Si les gens veulent nous parler, il n'y a aucun souci. On répondra aux questions et on a déjà eu des gens qui nous ont contactés sur la remorque qu'on avait, sur plein de petites choses comme ça. Donc ouais. Il n'y a pas de souci.
Trop cool. Eh ben, merci beaucoup pour ton partage. C'était très, très chouette de t'avoir. Et puis, je te dis à bientôt.
Ben, merci. Merci à toi de nous avoir écoutés et de partager tout ça. Merci à toi.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres TWIP en même temps que cet épisode, TWIP, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix. Dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de TWIP pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.